Bonjour à tous. Les vacances, ça se mérite pour celles et ceux qui ont la chance d'y partir. La circulation est très chargée en ce moment, notamment vers la Méditerranée. On va faire le point dès le début de ce journal. Le ciel, lui, est aujourd'hui bien moins chargé qu'hier. De violents orages dans l'est de la France et même une tornade en Meurthe-et-Moselle. Un événement météo assez rare en plein été. Dans ce 13h, direction Moscou, où l'opposition russe se mobilise encore une fois. Toujours remontée contre l'interdiction de présenter des candidats aux prochaines élections locales. Nous irons également à Hong Kong, où la contestation ne faiblit pas. À Biarritz, où un vent de colère souffle chez les commerçants. Vont-ils devoir fermer leurs boutiques pendant le G7 qui approche et faire une croix sur leurs recettes en plein mois d'août? Et puis après, Monaco et Lyon, c'est au tour de Marseille de jouer son premier match de la saison en Ligue 1 de football. Un OM à la sauce portugaise avec son nouvel entraîneur André Villas-Boas.
France Inter.
Et tout au long du week-end, France Inter vous accompagne sur la route des vacances, des routes bien chargées. Encore une fois, un samedi classé noir dans le sens des départs vers le sud-est. Kevin Dufraîche, vous êtes nos yeux aujourd'hui sur les routes et vous nous confirmez, Kevin, qu'un nouveau chassé-croisé a bel et bien commencé.
Oui, avec des difficultés semblables à celles de la semaine dernière à la même heure, à commencer par la vallée du Rhône, sur l'A7 vers la Provence. Vous mettez une heure à aller de Valence à Montélimar contre 20 minutes en temps normal. Le long de la Méditerranée, c'est difficile aussi. En direction de l'Espagne, sur l'A9, de Béziers à Narbonne, 30 km de bouchons, temps de parcours triplé, 45 minutes au lieu d'un quart d'heure. Dans le sens des retours, ce n'est pas beaucoup mieux. Déjà dans la vallée du Rhône, encore une fois sur l'A7, en direction de Lyon. Cette fois, vous êtes ralenti dans le Vaucluse, puis autour de Montélimar et de Valence. Et puis quand vous revenez de l'Atlantique par l'autoroute A10, de Bordeaux à Saintes, vous mettez 2 heures au lieu d'une à cause d'un accident qui vient tout juste d'être dégagé. Tout ça devrait maintenant commencer à se calmer. La semaine dernière, le pic de bouchons de plus de 750 km avait été atteint aux alentours de midi.
Merci beaucoup Kevin Dufraîche du PC Mobilité de Radio France. Soyez prudent évidemment si vous prenez la route. Et pour nous sensibiliser, d'ailleurs, la Gendarmerie Nationale publie sur les réseaux sociaux des exemples d'automobilistes sanctionnés cet été. Des exemples parfois insolites. C'est le cas d'un conducteur verbalisé dans le Var avec une énorme bouée licorne sur le toit de sa voiture. Beaucoup trop volumineuse cette bouée licorne. Vous pouvez retrouver toutes les images de cette opération de sensibilisation des gendarmes sur franceinter.fr. Au moins si vous prenez la route aujourd'hui et même si vous rencontrez des ralentissements, vous aurez des conditions météo bien plus calmes qu'hier. De violents orages se sont abattus en fin de journée sur le Grand Est, le Centre ou encore l'Occitanie. Pas de blessés heureusement, mais pas mal de dégâts. Comment Lorraine ou une tornade est passée dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, précisément dans le secteur de Longwy, une trentaine de maisons détériorées, pareil pour la toiture d'une école. Ikram habite tout près de Longwy, sur la commune de Pétange. Cette tornade, elle l'a vue passer impuissante dans son jardin.
On a regardé tout ça par la fenêtre, les objets qui volaient dans le ciel, les bouées des enfants, le mobilier de jardin des voisins qui s'est retrouvé dans mon jardin. L'arbre de mes voisins, il s'est complètement, un cerisier déraciné et il s'est retrouvé chez le voisin en face. Et quand j'ai ouvert la fenêtre pour regarder vraiment ma terrasse en bas et que j'ai vu toutes ces tuiles, tout mon mobilier de jardin détruit, mes vélos détruits, tout était détruit, j'ai mis quelques temps pour réaliser, quelques minutes. Ensuite, je suis sortie dans la rue et là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La rue était bloquée, plus d'électricité. On a vu des tuiles plantées dans les façades, des morceaux de bois plantés dans une façade. C'est du jamais vu, la violence, la puissance du vent. C'est apocalyptique, on dirait la fin du monde. On voit ça qu'à la télé, hein. C'est juste incroyable.
Et après la Lorraine, cette tornade a frappé le Luxembourg. 19 personnes ont été blessées dans le Grand-Duché, dont 2 grièvement. Alors une telle tornade en plein été, c'est plutôt rare. Comment l'expliquer? On a posé la question à Alex Roumaniac, il est prévisionniste et président de Prédict, une filiale de Météo France.
Ce sont des phénomènes qui sont relativement rares et qui sont produits en fait par un peu des extrêmes, hein, puisque pour qu'une tornade se produise, il faut en fait des gros différentiels de température entre des températures au sol et donc notamment sur cette fin d'après-midi qui était très très chaude, et puis de l'air froid en altitude, et puis à un moment donné le cisaillement de vent produit en fait cette inversion, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça arrache les toitures, etc., avec des vitesses de vent importantes, des grosses canicules, ces fortes températures, effectivement, peuvent générer ce type d'événement.
Et suite aux orages d'hier soir, environ 15 000 foyers étaient privés d'électricité ce matin en Lorraine, mais aussi en Occitanie et en Bretagne. La situation est bien plus calme donc aujourd'hui. Plus aucun département n'est en vigilance orange face au risque d'orage. En revanche, la sécheresse est toujours bel et bien présente et elle continue de s'accentuer. 83 départements sont désormais concernés par des mesures de restriction d'eau et 39 sont placés en niveau de crise.
Le journal de 13h sur France Inter.
On part en Russie avec de nouvelles manifestations aujourd'hui à Moscou pour le 4e week-end de suite. L'opposition au pouvoir se mobilise en ce moment dans les rues de la capitale russe. Un rassemblement très encadré et autorisé cette fois, contrairement aux deux précédents qui s'étaient soldés par plus de 2000 interpellations. Alors même si la quasi-totalité de ses leaders est désormais emprisonnée, l'opposition russe est toujours mobilisée pour dénoncer l'exclusion de ses candidats aux prochaines élections locales prévues en septembre. Jean-Didier Revoin, vous êtes à Moscou pour France Inter, vous êtes dans ce rassemblement qui doit commencer en ce moment même. Jean-Didier, quels sont les enjeux aujourd'hui de cette nouvelle mobilisation ?
Eh bien, les enjeux sont assez simples. Hein. Pour la mairie de Moscou, eh bien, c'est de montrer qu'elle peut gérer un rassemblement sans débordement. Et le rassemblement d'aujourd'hui, en autorisant la participation de 100 000 personnes à cette manifestation d'aujourd'hui, eh bien, c'est un test important pour la mairie. Et puis pour l'opposition, eh bien, l'objectif est de rassembler un maximum de gens dans le cadre d'une manifestation, vous l'avez dit, autorisée. Et donc d'inciter ceux qui avaient eu peur de se faire arrêter les semaines précédentes eh bien, à eux aussi descendre dans la rue. Et pour l'instant, on peut dire que c'est un succès. Il y a des milliers de manifestants qui sont en train de se rendre sur le site de l'avenue Sakharov. Ils sont pour l'instant coincés au portique de sécurité, les détections de métal. La sécurité est importante pour les autorités russes. Mais on constate qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui ont bravé la pluie en ce samedi après-midi et qui attendent patiemment de pouvoir pénétrer sur le site proprement dit de la manifestation.
Jean-Didier Revoin en direct de Moscou pour France Inter. Nouvelle journée de mobilisation donc à Moscou. Françoise Dossé est sociologue spécialiste de la Russie. Et pour elle, ces élections locales, pas si fondamentales que ça à la base en Russie, elles deviennent capitales finalement pour l'opposition russe.
Ce qui est un peu paradoxal dans ces manifestations, c'est qu'au fond, elles se jouent autour d'un enjeu qui est relativement mineur. C'est-à-dire que les élections à la Douma de Moscou, ce sont des élections de niveau très local pour une assemblée qui a relativement peu de pouvoir. Donc ce qui se joue là autour de ces élections, c'est autre chose en fait. C'est la volonté en fait de ces militants d'opposition d'essayer de participer à une vie politique dont ils sont exclus depuis... près de 20 ans en fait maintenant, et donc ils essayent en fait de passer par ces élections, par ces échelons très locaux, hein, par ces élections très locales pour essayer de retrouver une voie politique au niveau de la Russie tout entière. Et plusieurs en fait des candidats déboutés sont en fait des hommes politiques d'ampleur fédérale, disons. Hein. C'est le cas par exemple de Dmitri Goudkov qui était député à la Douma d'État, qui a perdu son siège, mais qui est un homme politique qui pourrait prétendre à participer, disons, à la grande politique en Russie. Or l'accès à la grande politique leur est complètement bloqué.
La sociologue et spécialiste de la Russie, Françoise Dossé, invitée ce matin du 6-9 de France Inter. Et en plus de Moscou, l'opposition doit se mobiliser aujourd'hui dans plusieurs autres villes du pays. Hong Kong entre lui dans son troisième mois de contestation. Les militants pro-démocratie hostiles à une influence grandissante de la Chine maintiennent la pression ce samedi. Un sit-in à l'aéroport international continue avec des enfants dans les poussettes, des ballons. Plusieurs centaines de familles sont également descendues dans les rues aujourd'hui. Angélique Forger est à Hong Kong pour France Inter.
Derrière son masque opaque qui lui sert surtout à cacher aux forces de police son identité, Crystal, 35 ans, regarde passer le cortège. Elle le sait, cette manifestation n'a pas été autorisée, mais cela n'a pas entamé ses motivations. Pour son 10e week-end consécutif, elle devait descendre dans la rue.
Tant que la chef de l'exécutif, Carrie Lam, ne répondra pas à nos demandes, je continuerai à être dans la rue. De toute façon, je n'ai pas la tête à faire autre chose de mes week-ends.
Quelques mètres plus loin, un centre commercial s'est transformé en base arrière pour manifestants. L'air y est climatisé. C'est ici que So, une jeune étudiante en sociologie, attend de recevoir sur sa messagerie sécurisée Telegram les instructions pour la suite des opérations.
Comme nous ne sommes pas les manifestants qui allons en première ligne, nous ne savons pas encore très bien ce qu'on va faire après. On est surtout là pour les soutenir. Quel que soit ce qu'ils prévoient après, nous les suivrons à l'arrière, car eux ont le courage d'aller au front.
Depuis le début de la contestation, plus de 500 personnes ont été arrêtées, une quarantaine inculpées pour émeute, un délit passible de 10 ans de prison. Hong Kong, Angélique Forget, France Inter.
Des tensions toujours à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. 4 Palestiniens armés ont été abattus ce samedi. L'armée israélienne ajoute que ces 4 hommes étaient équipés de grenades, de lance-grenades et de fusils d'assaut de type AK-47. Après son coup de force de jeudi soir pour réclamer des élections anticipées en Italie, Matteo Salvini est déjà en campagne. L'homme fort du gouvernement italien poursuit sa tournée des plages. Il est ce midi dans le sud du pays, sur la côte de la mer Ionienne. Lundi après-midi, les chefs des groupes parlementaires du Sénat italien doivent se réunir pour définir un calendrier face à cette crise inédite. La coalition entre la Ligue de Salvini et le mouvement 5 étoiles qui vole en éclats après 14 mois de pouvoir. Dans 2 semaines, très exactement, à partir du 24 août, un sommet du G7 va s'ouvrir à Biarritz. Et l'organisation de cet événement, avec les chefs d'État et de gouvernement les plus puissants de la planète, elle provoque pas mal de remous en ce moment sur la côte basque. Avec un centre-ville sanctuarisé, interdit au public, les commerçants de Biarritz se demandent en effet si cela servira à quelque chose qu'il soit ouvert pendant les 3 jours du G7. Vous êtes allé à leur rencontre, Paul Nicolai.
Certains s'interrogent encore, d'autres comme Nicolas ont pris leur décision. Sa boutique de surf à 2 pas de la grande plage va fermer lors du G7. Question de rentabilité.
On va fermer le magasin parce que l'activité principale c'est le surf. Et du coup comme c'est le surf, la plage est fermée. Pas de cours, pas de location, rien.
Un manque à gagner que redoutent les commerçants, faute de clients qui ne pourront accéder aux zones sensibles autour de l'hôtel du Palais en raison des mesures de sécurité. Camille dirige un croque-minute, il en a gros sur la patate.
Ça sert à rien, personne ne peut accéder, on est en pleine zone rouge. Si on n'a pas un badge, il n'y a aucun touriste qui peut accéder, la plage est fermée. Il faut qu'on ferme en plus 3 fois par jour à chaque délégation qui passe, 1 heure avant que les délégations passent, pour rentrer toutes les vitrines, tout fermé, donc non. Donc ils nous pourrissent la saison.
Stratégie tout autre en revanche pour les commerces de luxe. Rester ouvert est une question de principe, estime Pierre de l'enseigne de vêtements Tommy Hilfiger.
Le mois d'août pour nous, fermé, c'est quand même assez, c'est inconcevable de fermer le mois d'août. Donc on verra comment ça se passera. On s'attend à avoir 3 jours chaotiques entre guillemets. Mais quoi qu'il arrive, on sera ouvert.
Ouvert ou pas, les commerçants biarrois devront attendre la fin du mois pour dresser un bilan objectif du G7.
Un reportage de Paul Nicolai de France Bleu Pays Basque, le G7 du 24 au 26 août prochain à Biarritz. La nouvelle grille tarifaire, les livreurs de la plateforme Deliveroo n'en veulent pas. Nouvelle mobilisation ce week-end, c'est le cas par exemple à Grenoble ou encore à Paris où un rassemblement est prévu ce soir à 19h, place de la République. Deliveroo, la plateforme britannique de livraison de repas à domicile, a décidé de baisser en effet les tarifs des courses les plus courtes. Dans la capitale, le tarif minimal fixé à 4,70€ a également été supprimé. Mais la Ligue 1 de football, à partir de l'année prochaine, elle va prendre le nom d'ailleurs d'une autre plateforme de livraison de repas. En attendant, le championnat reprend ce week-end. Après la victoire de Lyon hier soir 3-0 à Monaco, c'est au tour de l'Olympique de Marseille de jouer son premier match cet après-midi. L'OM reçoit à Reims avec un effectif qui ressemble beaucoup à celui de la saison dernière. Mais la vraie star marseillaise, ce serait plutôt son nouvel entraîneur, le portugais André Villas-Boas. Vous nous dressez son portrait, Tony Cellier.
Son français n'est pas encore parfait, mais déjà tout à fait compréhensible. D'ailleurs, André Villas-Boas n'est pas du style à parler dans sa barbe de 3 jours. Sa communication est aussi franche que ciselée, et visiblement, le portugais a réussi sa greffe avec le groupe marseillais. Son capitaine, Steve Mandanda.
Il demande énormément d'intensité. Sur l'aspect tactique, on sait ce qu'on doit faire. Dans l'animation offensive comme défensive, on sait exactement où on doit se placer et ce qu'on doit faire, avec ou sans le ballon. Tout ce qu'il demande, c'est clair.
À 41 ans, André Villas-Boas a déjà bien roulé sa bosse après avoir vécu dans l'ombre de José Mourinho. Lui qui parle 4 langues, a coaché en Angleterre, en Russie puis en Chine. Son compte en banque a dû en profiter, mais il était temps pour lui de revenir en Europe. Après avoir éclaté au grand jour à Porto avec un jeu spectaculaire, il a su aussi se montrer plus pragmatique quand les temps se sont fait plus durs. Alors, quelle sera sa philosophie pour l'OM ?
Je pense que ça à la fin va dépendre match par match. Mais nous avons une responsabilité, quand on joue avec l'autre homme, de proposer et avoir l'initiative.
Avec Marseille, le portugais se met aussi en danger. Des moyens limités. Il n'a jamais vraiment connu pareille situation par le passé. Mais s'il réussit, ce sera gagnant-gagnant. Et plus que les joueurs, ce sera bien lui, la star de l'OM cette saison.
L'OM d'André Villas-Boas face au Stade de Reims, c'est à 17h30 cet après-midi au Vélodrome. 5 autres matchs se jouent ce soir, notamment Dijon, Saint-Etienne ou encore Montpellier face à Rennes. 13h15 sur Inter, la météo, retour au calme, plus aucun département en vigilance orange à cause des risques d'orage. On fait un point complet avec Jean-Pierre Rameau de Météo France.
Cet après-midi, prévoyez le plein soleil autour du Golfe du Lion et de la basse vallée du Rhône à la Côte d'Azur, sans oublier la Corse. En revanche, les nuages seront majoritaires entre les Landes et le relief pyrénéen. Partout ailleurs, les cumulus laisseront une bonne place aux éclaircies. À noter un vent de sud-ouest assez fort près des côtes de la Manche. Les rafales seront voisines de 80 km par heure. On attend jusqu'à 100 km par heure près des caps Griné et Blané. Un mot sur les températures, elles évolueront généralement entre 20 et 28 degrés. Comptez 30 à 35 en vous rapprochant de la Méditerranée. Dans le détail, prévoyez 20 degrés à Brest, 23 à La Rochelle, 25 à Lille, 26 à Bordeaux et à Tours. Comptez 27 degrés à Paris comme à Nancy, Limoges et Toulouse. 29 à Dijon et Lyon, ça sera plus chaud dans le sud avec 31 à Bastia et 35 à Nîmes. Demain, l'activité orageuse repartira dès le matin dans le sud-ouest avec de fortes pluies. Ces orages vont gagner le Limousin puis les régions de l'Est et du Nord-Est. Et attention, ces orages seront localement forts.